Les As de la CoPro, le point juridique.
Première question, premier thème que je voudrais aborder avec vous, dans ce thème, le point juridique, c'est les failles du VPC. Le VPC, le vote par correspondance, donc aujourd'hui en Assemblée Générale et donc depuis la loi Elan, on peut voter en adressant à son syndic un formulaire de vote par correspondance qui est réglementé, dans lequel on coche son choix de vote pour, contre, abstention, question par question, résolution par résolution. Aujourd'hui, le VPC n'est pas décrié, mais il est discuté. Il y a des failles, il y a des défauts, et on le voit sur le terrain, et donc on en parle aujourd'hui. Marie-Hélène, c'est quoi ces défauts principalement ?
Alors, ces défauts, c'est principalement la problématique des passerelles, donc les deuxièmes votes en séance, il faut qu'ils soient indiqués au sein du formulaire, et ensuite les problématiques de vote de travaux, où si on veut choisir une entreprise, il faudrait que résolution par résolution, on porte les entreprises, ce qui peut aussi générer que les copropriétaires votent pour plusieurs devis en même temps. Enfin, parfois, c'est un peu cacophonique aussi, parce que c'est pas évident. L'absence de débat fait que c'est un peu compliqué parfois de chez soi de pouvoir être intelligible pour les copropriétaires. C'est assez rigide, hein, puisqu'on ne peut rien amender, hein, on ne peut pas toucher au formulaire. Et par conséquent, s'il y a des amendements lors de l'Assemblée générale, il faudrait compter ces copropriétaires comme défaillants, puisque la résolution a bougé. Donc, il y a encore des choses à améliorer. Le côté positif, c'est quand même de permettre à des gens, enfin, en tout cas, d'éviter l'absence de fréquentation des assemblées générales, ou en tout cas de la croître. Il y a peut-être un peu des choses à amender pour
Alors,
que ça soit plus efficace.
C'est vrai que le VPC a été créé pour lutter contre l'absentéisme en assemblée générale. Est-ce qu'il a fait monter le taux de votants ? Est-ce qu'il n'a pas, au détriment du taux de participation physique et donc de débat, de délibération ? On parlait des passerelles, on parlait des résolutions à trous, des candidature spontanée. Pierre-Edouard, votre sentiment sur ce VPC d'un point de vue avec l'œil purement juridique ?
C'est pour l'instant assez difficile à évaluer parce que la pratique a été celle des assemblées générales pendant la période Covid et le recours a été assez massif, parfois même unique, puisque les assemblées générales ne sont souvent pas tenues tout simplement et les votes sont passés par cette méthode-là de vote par correspondance. Donc c'est difficile d'avoir du recul et d'avoir un regard objectif sur la situation aujourd'hui, de pouvoir faire des statistiques. Maintenant, les difficultés que l'on a rencontrées, et elles ont été très bien décrites par Marie-Hélène, ce sont des problèmes d'amendement de séance, d'être bloqué finalement dans la vie de l'Assemblée générale, de savoir comment on peut aménager une résolution sans perdre la moitié des votants qui sont par correspondance, parce qu'on a touché une virgule, parce qu'on a légèrement modifié un prix, parce qu'il y a eu cet amendement qui les rend défaillants.
D'où l'amendement ? Il faudra peut-être que la jurisprudence se prononce sur
sans
la
doute,
définition
sans doute qu'elle
de l'amendement.
Moins stricte que ce qu'on a tendance à dire, parce qu'on a tendance à être très rigoureux sur le texte, notamment parce qu'il y avait initialement une rédaction un peu plus large avec l'amendement substantiel et ça n'a pas été conservé. On a un amendement tout simplement. Peut-être que la jurisprudence desserrera un petit peu l'analyse que l'on a, qui est une analyse prudente. Mais dans tous les cas, il y a une difficulté de cette participation distante et on comprend qu'on veuille protéger la personne qui n'est pas là. Mais c'est vrai que c'est bloquant pour l'Assemblée générale, c'est bloquant pour sa capacité de décision. Et en plus, ça ajoute à cela pour les syndics une difficulté qui n'est pas directement la leur, mais qui est celle des éditeurs de logiciels. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais on assiste à des problématiques qui sont d'ordre purement technique, où on a des logiciels qui ne sont pas encore parfaitement calibrés pour le vote par correspondance, et notamment pour modifier le vote des correspondants absents et qui deviennent défaillants parce que, on a amendé en séance une résolution. Et ça, c'est un vrai problème juridique et technique qu'il va falloir résoudre dans les tout prochains mois, parce que je pense qu'il y a des syndics qui vont aller au devant de difficultés.
C'est vrai que sur les passerelles, pour l'instant, je crois qu'on a un seul arrêt d'un tribunal d'Orléans qui dit qu'il faut prévoir sur le formulaire le second vote, sauf que certains et notamment à la CLCV, je crois que c'est leur position, hein, disent « Mais comment peut-on voter en deuxième lecture si on n'a pas le résultat de la première lecture, de la première décision ?» Parce qu'on peut tout à fait changer son vote en deuxième lecture en fonction des débats, de la délibération de la première lecture. Mathieu ?
Oui, mais exactement. Moi, je pense que c'est vraiment ça la limite du vote par correspondance. C'est qu'on est exclu des débats. Et l'Assemblée générale, c'est un lieu de débat, c'est un lieu d'échange.
D'ailleurs, on dit l'Assemblée générale, après en avoir délibéré,
exactement,
décide d'eux.
Et c'est très sain. Et l'ordonnance, la dernière ordonnance sur la copro, finalement, a conforté ce rôle de l'Assemblée générale, hein, puisqu'elle a... Voilà, on parlait d'autres solutions. Là, l'Assemblée générale reste un lieu de débat, de démocratie directe, où chacun s'exprime, vote, mais après avoir entendu les autres. Et là, le vote par correspondance l'empêche complètement. Moi, si j'ai une recommandation à faire à tous les copropriétaires qui nous écoutent aujourd'hui, il vaut mieux donner son pouvoir à quelqu'un à qui on tire confiance, plutôt que de voter par correspondance.
La délégation de vote, qu'on connaît tous.
Qui fonctionnait très bien. À partir du moment où on a confiance dans la personne à qui on donne pouvoir, c'est beaucoup plus efficace qu'un vote par correspondance où on vote tout seul dans son coin sans en discuter avec les autres.
Alors, beaucoup de choses à dire. On ne va peut-être pas parler encore d'abrogation du VPC. On va essayer de l'améliorer, de le retoucher. En tout cas, il va falloir remettre ça sur le métier. Je vous remercie. Peut-être qu'Alexis, un dernier mot.
Sur cette partie de faille, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution ni juridique, pas encore suffisamment technique pour justement pallier les carences et toutes les difficultés, parce qu'aujourd'hui, là encore aujourd'hui, on a des assemblées générales encore ce soir, dans quelques semaines, beaucoup à la rentrée, et on aura toujours ces difficultés. Et aujourd'hui, on constate les failles, mais on n'a pas encore de solution pour combler toutes ces lacunes. Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui.
Et il va falloir quand même s'en préoccuper. J'enchaîne sur la deuxième question, le deuxième thème de cette première séquence, le point juridique. Je vous donne la parole pour ouvrir, Pierre-Edouard. Location touristique saisonnière, c'est toujours d'actualité, mais c'est un sujet d'actualité depuis 5 ans, 6 ans, enfin plusieurs années en tout cas. Doit-on nécessairement modifier le règlement de copropriété pour l'empêcher ? Il est vrai qu'en Assemblée générale, des copropriétaires nous demandent d'inscrire à l'ordre du jour l'insertion d'une clause dans le règlement de copropriété interdisant purement et simplement la location touristique saisonnière. Si oui, est-ce que c'est possible, mais est-ce que c'est toujours nécessaire ?
C'est une question à tiroir, parce qu'au fond, il faut d'abord s'interroger sur ce que c'est que la destination de l'immeuble, ce que les copropriétaires ne savent pas toujours, ou parfois, lorsqu'ils le savent, ils préfèrent un petit peu l'ignorer, parce que ça les contraint, parce qu'effectivement, la destination de l'immeuble, ça n'est pas seulement ce qu'il y a dans le règlement de copropriété, c'est aussi des données objectives, c'est-à-dire la situation de l'immeuble et ses caractéristiques. C'est ainsi qu'est définie la destination de l'immeuble, hein, à l'article 8 de la loi de 1965, c'est au regard de l'immeuble. Et effectivement, au regard également des clauses du règlement de copropriété, mais qui doivent être conformes à ces éléments objectifs. Alors la question, c'est peut-on toujours interdire la location saisonnière ? Eh bien non, on ne peut pas toujours, parce que lorsque l'immeuble est à destination mixte ou commerciale, alors mixte, c'est-à-dire avec des bureaux, ou mixte commercial, ou libre, c'est-à-dire commercial, habitation et bureaux, on a des difficultés à interdire la location saisonnière parce que la jurisprudence n'est pas encore tout à fait fixée, même lorsqu'il n'y a qu'une mixité de bureaux, parce que la jurisprudence, pendant un long moment, a admis que la location saisonnière pouvait être rapprochée d'une activité de bureau et ne présenter guère plus de nuisances. Alors il y a une évolution sensible qui paraît assimiler la location saisonnière de manière beaucoup plus systématique à une activité commerciale et donc à exiger que l'immeuble puisse permettre l'exercice de cette activité-là.
Ce qui voudrait dire que si on est dans un immeuble avec un règlement de copropriété qui indique que la destination de l'immeuble est à usage bourgeois ou exclusivement bourgeois, à plus forte raison, pas besoin de modifier le règlement.
Exclusivement bourgeois, pas besoin de modifier le règlement de copropriété. Alors, ceci étant, à condition que la clause soit conforme à la destination de l'immeuble telle qu'elle résulte de ses caractéristiques. Si c'est une clause simplement bourgeoise, bien, la question doit être posée, parce que si on a des activités de médecine libérale avec une clinique dans les étages, le juge peut apprécier vraiment de manière concrète de savoir si la location B&B présente plus ou moins de troubles au regard de cette clause, même si, comme je le disais, elle est plus sévère aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années, parce que c'était sa position, notamment la Cour de cassation. Ça a un petit peu évolué, c'est un peu plus favorable aux copropriétaires qui souhaitent interdire cette activité commerciale, mais ce n'est pas toujours évident. Ce qui fait que dans un certain nombre de cas, plutôt que d'interdire l'activité, on va se rabattre sur un pis-aller, mais qui est le trouble de jouissance. Et donc on va limiter, non pas interdire, mais limiter l'activité par ce biais-là lorsqu'on a des immeubles qui sont tout simplement mal isolés ou lorsqu'on a des occupants et des bailleurs qui sont peu regardants et qui troublent la quiétude des occupants.
Alors, merci Pierre-Edouard. C'est vrai que souvent, Marie-Hélène, dans certains règlements de copropriété, on a vieux règlements de copropriété, on a aussi une clause qui interdit location meublée, tout court.
Alors, oui, ça c'est surtout l'usage du lot et quelle est la destination du lot, si c'est un lot d'habitation ou si c'est un lot commercial, parce que comme le disait Pierre-Edouard, l'allocation meublée de courte durée, hein, parce qu'en définitive, c'est ça, le Airbnb, elle a normalement une destination commerciale. Donc ça, c'est défini hein, par le Code de la construction et de l'habitation, très clairement. Il y a aussi...
Ce qui voudrait dire que en tant qu'activité commerciale, l'allocation Airbnb serait purement et simplement impossible dans un immeuble. Donc pas la peine d'aller rajouter une clause. Pas la peine d'aller rajouter une clause.
Selon la destination du lot, oui, selon l'usage du lot qui en est fait. Alors,
après, il y a la jurisprudence qui a effectivement récente, qui avait condamné un propriétaire, mais qui se livrait à de la location touristique un peu à échelle hôtelière, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs biens, plusieurs logements au dernier étage. Il le faisait, disons, à grande échelle. Est-ce qu'il aurait eu la même décision vis-à-vis d'un particulier qui aurait loué occasionnellement, en plus une partie seulement de son logement d'habitation? Est-ce que le juge serait allé jusqu'à qualifier cette activité de commerciale?
Je ne sais pas comment est la jurisprudence et comment apprécient les magistrats, mais je suppose, parce que moi j'ai eu le cas sur un immeuble où c'était carrément une location intensive, c'est-à-dire 70 couchages dans un immeuble parisien. Donc là, tout a été utilisé, hein, c'est-à-dire le trouble de voisinage avec les attestations, la mobilisation, une partie avec l'examen du règlement de copropriété au niveau judiciaire. Là, on essaye de croiser tous les faisceaux pour interdire cette location-là, quoi. Parce que le fondement de la problématique de la location de courte durée, c'est les gênes que ça occasionne et la dévalorisation de l'appréciation du bien, en définitive, par des allées-venues, par des désordres au niveau des parties.
Et là, on est sur les troubles du voisinage, etc. On est sur un autre fondement. Finalement, donc, la notion de destination de l'immeuble est importante. La qualification de cette activité-là en face, elle est également, on confronte les deux pour savoir si c'est interdit ou s'il faut rajouter une clause ou pas. Je propose qu'on passe à la deuxième séquence parce que le temps défile. C'est la question du copropriétaire.
Les As de la CoPro sur Radio Immo.